dans les oreilles de un invité.
Je suis Mathieu Bogart.
Jane Birkin.
Romain Gavras.
Luigi Sakamoto.
Monster.
Dans les oreilles, une vie en musique.
Qu'est-ce que j'écoute en ce moment? Ça, c'est une bonne question.
There are many, many songs. Pour moi, c'est difficile d'expliquer.
Nova.
À chacun sa BO.
D'abord, on m'a forcé à aller à l'opéra.
Ça m'a vraiment fasciné.
Le blues et le reggae.
C'était super bien.
Parce que la musique, c'est le plus profond langage humain.
Nova vous plonge dans les oreilles de chaton.
Ah bah je m'appelle Simon. Depuis 4 ans et demi, j'œuvre sous le pseudonyme chaton. Ça fait peut-être 20 ans que je fais de la musique, que j'écris des chansons. Et en ces 20 ans, j'utilise plusieurs pseudos. Chaque page que j'écris, en gros, c'est un pseudo. Donc là, depuis 4 ans, c'est chaton. Et chaton, c'est 98 chansons à l'heure actuelle sorties. Sur 9 albums et un EP, plus quelques singles. Et c'est vraiment un journal intime, un journal très intime.
Dans les oreilles de...
Un journal intime que nous avons découvert en 2017 avec ces mots. Au bord de la faillite, je continue d'écrire des poésies. Poésie extrait de Possible, premier chapitre de Chaton découvert via les tuyaux de la souterraine. Une renaissance qui nous prouvait alors que l'autotune n'était pas réservé au rap et au R&B. La chanson française pouvait s'en emparer aussi. Avant ça, Simon était Siméo. Sous cet alias, il sortira 3 disques avant de prêter sa plume aux artistes de variété. Avec Chaton, il monte son label, le contenu sur lequel sortiront les albums Brune Platine, Princesse Pigalle, Héros et au début du mois, Le Geste, disque composé main dans la main avec Blundetto, un croisement sensible. L'occasion pour nous de remonter ensemble le fil de cette vie musicale. Pendant une heure, Chaton convoque les musiques fondatrices mais aussi les mots qui lui ont donné l'amour des mots. Et pour commencer cette immersion, une question: quelle musique vous traduirez le mieux et donnerait le la de cette émission?
Est-ce que tu penses que c'est mieux de choisir une musique de moi ou pas de moi, en fait? Parce que ce qui peut me traduire le mieux, vu que c'est un journal intime, si tu me demandes à l'instant T, je vais te dire, ben... une des chansons du dernier album, je pense, me traduira le mieux. Si tu me demandes sur la globalité de ma vie, je te dirais par exemple le Metek de Moustaki. Donc choisis entre le Metek de Moustaki et disons Simon.
Un crayon bleu pour cet ami. Voilà toute mon adolescence. Je cours encore après une vie que j'ai promis à mon enfant. Et je sais bien qu'il est tard pour garder encore espoir. Ces nuits blanches sur nuit noire, j'ai rien qu'un oiseau de foi. Et j'ai même plus qu'une aile. Je tourne en haut. Je suis beaucoup trop fidèle.
C'est avec Simon, huitième piste de son dernier disque, Le Geste, que Chaton a suggéré de se présenter à nous. L'autre piste, c'est une autre autobio, elle est signée Moustaki. La voici qui arrive, voici le Métèque sur Nova.
Dans les oreilles.
Dans les oreilles.
Nova.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir.
Nova. Dans les oreilles. Dans les oreilles de
Chaton.
Retour en 1969 sur Radio Nova, notre invité Chaton n'est pas né, mais Georges Moustaki sort cette année-là. Le Métèque, un disque produit et arrangé par un compositeur vénéré des Diggers, Alain Goraguer. Chaton, qui met en musique sa vie sur disque et convoque aujourd'hui ceux qui ont accompagné les différentes étapes de sa vie. Retour là où tout a commencé, dans le salon familial.
J'ai un espèce d'énorme blackout sur la petite enfance, moi. J'ai très peu de souvenirs. Donc je commence à avoir des souvenirs de vie assez tard, finalement. C'est, ouais, facile, 6-7 ans. Premier souvenir de musique, c'est un peu un combo. C'est surtout une platine vinyle chez ma grand-mère qui, elle, jouait beaucoup de classiques français, francophones. Bon, je parlais du Métèque de Moustaki parce que c'est un peu la chanson phare pour moi de ce moment-là, de ces moments-là, de ces quelques années dont je me souviens. C'est quelques années à écouter vraiment des classiques francophones, mais c'est aussi Brassens, Brel, Barbara, Ferré, Ferra.
Je t'ai rencontré par hasard, ici, ailleurs, ou autre part. Il se peut que tu t'en souviennes. Sans se connaître, on s'est aimé. Et même, si ce n'est pas vrai, il faut croire à l'histoire ancienne. Je t'ai donné ce que j'avais, de quoi chanter, de quoi rêver. Et tu croyais en ma bohème, mais... Si tu pensais à 20 ans qu'on peut vivre de l'air du temps, ton point de vue n'est plus le même.
Tous ces chanteurs et chanteuses et auteurs surtout, la plupart auteurs et compositeurs en fait. Enfin, ce qui sans doute est la genèse de ça, de cette culture de la chanson. Parce que en fait, moi je suis musicien, mais je suis surtout auteur et compositeur. La musique est présente quand les parents sont présents. Voilà, notamment mon père qui écoutait plus de musique sans doute que ma mère. Et donc c'est plutôt les week-ends, c'est plutôt... Et c'est, je dirais, une musique, je dirais, générique en fait. C'est-à-dire qu'il a cette culture-là des années 60, de Beatles, de Neil Young, de toutes ces choses-là, Simon Garfunkel. Did I see you down in a young girl's town with your mother and so much pain? I was almost there at the top of the stairs with her screaming in the rain. J'ai ce lien avec mon père, Harvest. Voilà, cette chanson. C'est-à-dire que mon père, on ne sait pas se parler. On n'a jamais su se parler. En revanche, chaque fois que je le vois, il me demande de jouer cette chanson. Et cette chanson, je lui joue. Et ma mère est persuadée que ma version est plus belle que l'original. C'est une merveille. Et mon père, je crois qu'il se passe un truc à ce moment-là dans notre vie. C'est notre canal de communication. En fait, j'ai pas vraiment écouté de la musique jusqu'à, je vous dis, la préadolescence. J'en ai joué, je l'ai apprise. En tout cas, je me la suis pas appropriée du tout. Ça m'était assez étranger. Aujourd'hui, les nocturnes de Chopin, c'est ce que j'écoute le plus. Il n'y a pas une journée a priori ou une nuit. Donc du coup, ça a forcément infusé. Mais à ce moment-là, je ne comprenais pas. En fait, c'était comme... Enfin voilà, j'apprenais à lire une partition, j'apprenais à jouer une partition. Ma première prof de piano était très très dure. Pour moi, c'était plutôt l'autorité et la musique. Très sincèrement, mon vrai premier choc musical, c'est, je pense, la première fois que je suis allé à un concert, et c'est beaucoup plus tard. Et c'est Black Uhuru. Et c'est le moment où je me suis vraiment approprié la musique. Mais même avant, et d'ailleurs, c'est le moment où j'ai switché entre l'apprentissage classique, où c'était plutôt voilà, Chopin, à la musique, à ce que j'ai compris que la musique, c'était un truc qui t'accompagnait dans la vie, et j'en ai fait un truc personnel.
Et Black Uhuru, c'était où ?
C'était au Rai Théâtre à Lyon. Je suis né à Lyon. J'ai grandi à Lyon.
Et qu'est-ce que vous dites que ça vous, c'est la première fois que vous avez entendu de la musique ? En un sens, qu'est-ce qui s'est passé ?
En fait, c'était fou. J'avais 13 ans ou 14 ans. C'est ça, 13 ans. Ouais. Et je vais dans ce truc-là, qui était une petite salle à côté de chez nous. J'y vais avec les grands, parce que moi, j'avais absolument pas l'âge pour aller à un concert. Et là, c'est Black Uhuru, à l'époque, donc il y a Michael Rose. Et il y a Sly et Robbie sur cette tournée basse-batterie, quoi. Donc, vous donnez un peu... Enfin, a posteriori, c'est un truc vraiment fou, en fait, à voir et à entendre. Et ces mecs débarquent sur scène et puis il se passe un... Enfin, le son, je sais pas, c'est la première fois que je prends du son sur un sound system, une façade de salle. C'est énorme. Les basses, c'est énorme. Donc, c'est Robbie Shakespeare qui est à la basse. Tout en sub, ça vous prend le corps. Et c'est aussi le moment où je fume probablement mon premier joint et qu'il y a un espèce de truc où je ne comprends pas ma vie pendant... En plus, ça dure une éternité parce que les concerts de reggae à l'époque, ça commence pas du tout à l'heure. Il y a 4 premières parties. Les Jamaïcains, ils arrivent toujours très tard sur scène. Alors, ce moment-là, je découvre la musique et je pense, un mois après, je vois Israel Vibration. Là, cette fois au Transborder, qui est une un peu plus grande salle. Et là... ils ont un handicap, donc ils sont en béquille, ils apparaissent éclairés de dos, ces trois ombres qui apparaissent. Là, clairement, j'ai dit, ça, c'est ma vie, je vais faire ça toute ma vie, je vais faire de la musique, je vais faire que ça. Et j'ai fait que ça. Moi, je viens de Lyon, dans vraiment limite campagne lyonnaise, c'est-à-dire vraiment, là, moi, je suis pas allé boire un café dans un café avant mes 20 ans, avant que je sois arrivé à Paris, quoi. On était au bord de Lyon, 9e arrondissement, à 100 mètres, c'était plutôt les montagnes. Ben voilà, la musique des jeunes, c'était le reggae, quoi. Et donc, je me retrouve à ce concert, je connaissais pas le reggae. Le lendemain, je suis allé acheter cet album, donc Sinsemilla de Black Uhuru, c'est le premier album que j'ai acheté. Et cet album-là, bah en fait, je ne sais pas si tu vois ce que c'est cette musique-là, mais enfin, c'est du reggae digital, c'est complexe à aimer quand tu ne connais rien à la musique pop ou à la musique reggae ou à la musique caribéenne. C'est genre incroyablement froid de premier abord. Et donc, il m'a fallu, à ce moment-là, l'écouter peut-être 150 fois en boucle. C'était mon premier CD pour aimer, pour comprendre. Et après, après se sont enchaînés les autres.
Dans les oreilles de
Chaton.
Les premiers concerts, c'est ceux qui m'ont le plus marqué. Donc, c'est toutes ces lignées-là de groupes de reggae qui étaient encore dans leur format plus ou moins original.
We're marching out the world towards the new century, armed with the new technology. We're getting more and more productivity. Some say things looking up for prosperity. But if everyone gon' get a share this time, well, mentality must get left behind.
C'est LKJ avec le Denis de Bowell de Band. Je te dis, Abyssinians. C'est Gladiators, beaucoup.
Blessings flow. The reason for life is love, and even before there was Zion stretched forth up above, Zion we love.
Je suis venu après au Raga, via Sizzla en fait, surtout. Ça c'est, je pense, vers mes 15-16 ans. Donc Sizzla, Good Ways, l'album Good Ways, qui est le premier vinyle que j'ai acheté, ça pour le coup.
Hang on to the words of Jacob, these are the words.
Avec El Shaddai de Jamali, ce jour-là. Good Ways et El Shaddai. Si tu veux jouer El Shaddai, s'il te plaît, joue Let Me Live In.
Oh, oh, Israel.
C'est pas des madeleines, là, c'est la boîte entière de madeleines, quoi. C'est incroyable pour moi.
Let me live, let Reuben live and never die. I will give praises to the Most High. Let me live. Let Reuben live and never die. I will give praises to the Most High.
Et Mockeries and Praise de Sizzla. Et qui est, je pense, je vais te dire, cette chanson, je l'écoutais, je me rappelle très bien, je l'écoutais en marchant pour aller au collège, au début de lycée. Mais genre, j'étais jeune, quoi. Le reggae, pour moi, pourquoi ça m'a touché et pourquoi c'est les nocturnes et le reggae, mes deux musiques de fond, et après est venu plus des musiques électroniques, parce que en fait c'est la musique du silence. Et Sizzla, il est incroyable quand il laisse les choses venir, quand il laisse le temps, quand il laisse la place et quand il laisse le temps à sa voix de se mélodiser.
Where do you go from here? Rasta found you guilty on the points of care. Atomic energy fuel your ego tear. Manufacture machine based upon your nuclear. Follies and the cries, many youths up. No, Zion I.
En fait, dans le reggae, il y a des mélodies complètement dingues. C'est-à-dire que on parle tout le temps des Beatles ou des Floyd pour les mélodies, même instrumentales. Hein. Mais le reggae, mais Marley, je veux dire, c'est un des plus grands top-liners de notre temps. Moi, Marley, j'ai un morceau qui m'a suivi toute ma vie, c'est Keep Waiting in Vain. Aussi parce que ma compagne, dont je parle dans toutes mes chansons depuis un certain temps, et notamment sur ce projet, puisque je raconte notre vie, qui s'appelle Lola, la première fois que je l'ai embrassée, je suis parti sur mon scooter et j'avais Waiting in Vain. Et à chaque moment clé de ma vie, on va à la maternité pour... On est en voiture pour aller à la maternité pour notre premier enfant, Waiting in Vain, à la radio, tu vois. Donc ça, après, si je dois Moi, la morceau, le morceau le plus fou de Marley, sans doute Coming from the Cold, parce que l'intro de la batterie... toute la période géniale, c'est quand, en plus d'être des chansons incroyables, c'est produit de façon incroyable. C'est-à-dire qu'il y a des albums qui sont produits tellement pop, en fait, tellement rond, tellement chaud, tellement beau, que c'est, ça devient juste... c'est éternel. Marley, c'est éternel.
Coming in from the cold, ouverture du dernier album de Bob Marley, Uprising, sorti en 1980, un titre qui clôt cette session reggae qui infuse façon dub la musique de notre invité ce matin. J'ai nommé Chaton et qui aura été, vous l'aurez compris, fondatrice d'autres musiques, des textes aussi et des nouveautés à découvrir dans la suite de cette immersion.
Dans les oreilles.
Nova.
Dans les oreilles de...
Je ne sais quel remords, et elle va se quitter par de ça, c'est sûr. Ouais, je me divise encore entre mes souhaits et mon sort. Assis là, j'essaie d'être sûr. Ouais, je médite encore sur les aspects des deux bords. Jamais rien trouvé d'aussi dur. Oh non, non. Plus d'une heure que je me défais d'une humeur. J'ai toujours été ondulée par-ci par la lune, pas les idées bien installées, disait Shane. Ondulée par-ci par la lune, pas les idées bien installées, disait Shane. I never feel the same. Plus d'une heure que je me défais d'une humeur. J'ai toujours été ondulée, par-ci par la lune, pas les idées bien installées, disachées.
Avec Ondulé, titre extrait de Super, le premier disque de Mathieu Bogart, une vague de douceur arrivée dans le poste en 1995. Alors avant de revenir sur ce disque, un petit rewind s'impose. On a quitté Chaton à Lyon, du reggae plein les oreilles. Quelle musique a donc succédé au reggae ?
Nova.
Dans les oreilles de
Chaton.
Après le reggae, dans ces contrées-là d'où je viens, il y a eu toute une vague de chansons françaises, un peu de comptoir, on va dire. Tu sais, c'était cette période où il y avait une scène indé française. Celui que j'ai écouté à l'époque, c'est Mano Solo. J'écoute moins maintenant, mais je sais que, tu vois, Quand tu dors, par exemple, chanson magnifique, il a écrit des choses magnifiques.
Je me sens si seul ce soir, tu es là pourtant, dans mon lit, dans ma nuit, je ferais mieux de me coucher contre ton corps. Au lieu de rester là à fumer encore et encore. Mais tu sais, pour moi, il y a des choses simples qui ne le sont pas. Et c'est toujours quand tu dors que j'ai envie de te parler. C'est toujours quand tu dors que moi, je dors pas.
Un de mes premiers projets, j'avais fait sa première partie. Moi, c'était vraiment mon idole, quoi, à l'époque. Et voilà, c'est quelqu'un à qui je trouve une...
Donc c'est ça que vous avez dans les oreilles à ce moment-là.
Ouais, c'est toujours le reggae, ça.
Et la nuit s'éternise. Et moi, je penche comme la tour de Pise. Fatigué sur un dernier dessin. Encore un qui raconte que je me sens pas bien. Alors je sommeille, mais je veux pas dormir. Alors je vais, je sais qu'un jour tu vas partir.
Et puis après, moi, je commence à ce moment-là, donc là je te parle 18 ans, je commence à arriver à... C'est le moment où, je pense, des mecs comme Mathieu Bogart font leur premier disque. Il y a Ondulé qui arrive, qui est une chanson extrêmement... qui marie un peu justement ces choses-là, du reggae, des musiques un peu soul, etc., avec la chanson française. C'est à l'époque où M fait encore des morceaux comme La Belle Étoile, des choses comme ça, tu vois.
T'es rien, juste une heure. Poussière dans un système solaire, une chose mystérieuse.
Des trucs où ils vont chercher dans le reggae, tous ces gens-là, c'est des gens qui ont écouté du reggae, évidemment. Maintenant, à cette époque-là, entre 15 et 20, 25 ans, moi, c'est devenu mon métier à 17 ans, à peu près, la musique 17-ish, quoi, tu vois. Mon premier album, je pense, j'avais 17 ans. Mon premier contrat, j'avais 18 ou 19, hein, tu vois. Et mes premiers concerts professionnels, je ne parle pas des groupes que tu avais avant, mes premiers concerts, vraiment, c'était pareil, c'est la petite vingtaine, quoi.
Et est-ce que vous avez eu un modèle dans l'écriture ? On évoquait dans l'enfance tous ces auteurs, tous ces paroliers, auteurs, compositeurs, interprètes, qui passaient sur la platine chez vos grands-parents. À vos débuts, justement, là, quand vous commencez, est-ce que vous avez en tête des modèles d'écriture ?
On vit un moment intéressant, je trouve, dans la société où on remet en question le patriarcat, on admet un petit peu plus la misogynie ordinaire, et du coup, il y a toute une somme de musique, et notamment chez des grands auteurs de cette époque, qui est aujourd'hui, je te citerai pas les mêmes choses, il y a des choses que je trouve moins fortes aujourd'hui, mais que je trouvais incroyables à l'époque. Donc c'est difficile de citer des auteurs pour tout ce qu'ils sont, ou des artistes pour tout ce qu'ils sont, parce qu'il y a des choses qui, à la réécoute, me paraissent moins pertinentes. En revanche, il y a des chansons que je trouve incroyables et qui restent toute la vie pour moi, parce que d'Aznavour, ça va être, comme ils disent, d'Aznavour, évidemment.
J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement, rue Sarrazade. J'ai pour me tenir compagnie une tortue de Canaries et une chatte. Pour laisser maman reposer, très souvent je fais le marché et la cuisine. Je range, je lave, j'essuie. À l'occasion, je pique aussi à la machine. Le travail ne me fait pas peur.
Mais ça va être aussi Les Vieux Amants de Brel. Ça va être La Supplique pour être enterré sur la plage de Sète de Brassens.
Alors cerné de près par les enterrements, j'ai cru bon de remettre à jour mon testament, de me payer un codicille. Vous envirez un peu l'éternel estivant qui fait du pédalo sur la vague en rêvant, qui passe sa mort en vacances.
Chez ces gens-là, il y a vraiment la source. Ferré, la vie d'artiste. T'écouteras sur mon nouvel album, Le Magicien. C'est une chanson où je suis en talk over sur du reggae. Bon, bah écoute, la vie d'artiste. C'est marrant parce que je suis en talk over sur du reggae. Et du coup, les gens pensent Gainsbourg, pensent aux armes. Et ben moi, pour moi, c'est la vie d'artiste de Ferré.
Je suis juste un con. Juste un con, et puis. Il faut que j'arrête de t'appeler. Il faut vraiment que j'arrête de t'appeler. D'ailleurs, aujourd'hui. C'est lui qui me répond. Lui. Lui qui ne sait rien. Lui qui n'est que le second. Lui qui ne sera jamais ce magicien qui transformait ses doigts en feu d'artifice. Lui qui sera juste celui qui transformera ta vie en quelque chose d'acceptable. Quelque chose de sensé. Quelque chose de raisonnable. Quelque chose que je n'aurais jamais pu t'offrir. Que je ne pourrais jamais offrir à personne. Car je l'ignore, moi. Oui, je l'ignore. Votre vie d'adulte.
Le travail de ma vie, c'est de réussir à écrire des bonnes chansons. Et le truc, c'est que j'ai toujours estimé que, ben, en fait, c'est comme c'est mon métier aussi. C'est mon métier, ben, je publie aussi ce que j'estime être mon grand brouillon, quoi. Donc, je publie énormément. Et à 17 ans, j'ai publié des choses que je ne peux pas écouter, tu vois ce que je veux dire. J'ai de la tendresse pour ces moments-là, j'ai de la tendresse d'avoir eu les couilles de le faire, mais c'est vraiment maladroit. Et tout le parcours de ma vie, c'est juste d'essayer d'écrire les meilleures chansons possibles, en fait. Parce que je suis passé par plein de formes, et je passe encore par plein de formes, suivant ce que j'écoute, suivant ce qui m'a bercé. Donc évidemment, je te parle de Mano Solo à l'époque, donc bah, si t'écoutes mes premiers albums, c'est très ces formes-là, machin, ou le reggae. Après, j'ai rencontré Booba, par exemple.
Je n'y crois pas, je crois au coup dur. Avec mes rôles, j'ai fait le plus dur. Normal, tu ne me vois pas. J'suis dans le futur. Le futur. Là où ces bâtards n'iront pas. Dos au mur. J'leur prendrai même ce qu'ils n'ont pas.
Ça a été un de mes chocs de plume. Bon, bah, il se trouve que la forme de Booba, c'est rap. Bon, après, sur le tard, c'est autotune, etc. Cette forme-là, forcément, elle infuse en moi. Mais le fond de tout ça, c'est que ce qui m'intéresse dans la musique chantée, c'est le propos ou lyrical ou mélodique. Mais comme moi, je ne suis pas un très grand chanteur du tout, j'essaie plutôt d'écrire les meilleurs textes possibles au final. Si j'étais un grand chanteur, j'aurais mis moins d'attention sur la plume. J'aurais adoré. Il se trouve que j'ai pas la voix qui peut faire ça. Je serai jamais ma voix avec un texte moyen. Bah juste y a personne qui va écouter ça sur Terre, tu comprends?
Dos au mur, je leur prendrai même ce qu'ils n'ont pas.
Et d'écrire pour les autres, ça comment dire, aiguisé l'écriture.
Mais non, ça. C'était ça en fait, c'était pour ça. Moi j'ai écrit pour les autres parce qu'à un moment je me suis dit, en fait, puis on me l'a dit aussi, mec, t'as pas le diamant brut en fait, donc ça sert à rien de le tailler, chante pas. Par contre, t'as une vraie formation, t'as une vraie culture musicale, t'as un vrai sens de la mélodie, et puis t'es un auteur, donc écris pour d'autres gens, ils vont chanter à ta place. Et je l'ai fait pendant 10 ans en fait. Moi je vais dire, un de mes plus gros tubes pour quelqu'un, ça s'appelle Je danse de Jennifer, ok. Cette musique, cette chanson, je la jouais moi sur scène en tant que Siméo pendant 3 ou 4 ans avant, tu vois. Et elle n'existait pas, je veux dire. Je l'ai jamais enregistrée, je l'ai jamais sortie parce que. Et puis c'est finalement une autre version qui est sortie, mais bon. Et plus je suis allé dans la grande variété, plus j'ai compris que c'était pas ça que ma vie, en fait. Donc moi, il y a la partie où je m'intéresse au texte, où quand j'écoute Booba, c'est pour son texte, en fait. Et puis il y a le moment où j'écoute la vibration de la musique.
I'm not loving you. Way I wanted to, what I had to do, had to run from you. I'm in love with you, but the vibe is wrong, and it haunted me all the way home.
Sur des producteurs de génie, des Kanye par exemple, où il y a également du propos évidemment, mais sur des gens comme ça, sur de la musique plus électronique, sur des James Blake, des. Je sais rien moi, des Paul Kalkbrenner, des Agoria, des n'importe qui va faire une musique incroyablement riche en vibrations. Là, c'est le corps en fait. Et le truc, c'est que quand t'écris pour d'autres, tu as tout ce travail d'auteur qui satisfait une partie de toi, mais la vibration de la musique, elle t'appartient pas. La musique te traverse pas physiquement. Tu vas pas non plus sur scène, tu vas pas. Et moi, j'ai besoin de vibrer aussi. En tout cas, je m'en suis rendu compte. Et donc j'ai dit, Lola, ok, je vais arrêter. Il faut que je retrouve mon D8, quoi. Le D8, c'est la première machine que j'avais, qui était une espèce de mini-magnétophone que j'avais quand j'avais cet âge-là, là, dont je te parle, 14 ans, etc., pour enregistrer mes premiers trucs, quoi. Et je dis, il faut que je retrouve cette énergie. Donc en fait, j'arrête tout et je me pose la question, qu'est-ce que ferait Kanye? Qu'est-ce qu'il fait quand il est devant ses machines, Kanye? Pourquoi ça a autant de cœur, sa musique? Qu'est-ce que fait Paul Kalkbrenner? Qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Quel est leur environnement? Comment ils connectent avec leur âme et leur vibration aussi fort? Comment en écoutant, on ressent aussi fort cette musique?
Au bord de la faillite, je continue d'écrire des poésies.
Et fuck la technique en fait, voilà. J'avais pris un laptop, un mini clavier et puis voilà. Et c'est là j'ai écrit Possible en fait, l'album Possible à ce moment-là, pendant 6 mois.
Et donc Chaton est né.
Et ouais, Chaton est né à ce moment-là. Ouais.
C'est Paris qui m'habite. Je continue d'écrire des poésies. Le téléphone est éteint. Le téléphone est éteint. Le téléphone est éteint. Je ne répondrai jamais plus de rien. Je ne me sens pas très bien. Depuis la fin des années 80. Pourtant la vie est facile. Il suffit de baiser les gens droit dans les yeux. Mais j'ai le sommeil fragile. De faire simplement bien quand je pourrais faire mieux. Et au bord de la faillite, je continue d'écrire des poésies. C'est Paris qui m'habite. Je continue d'écrire des poésies. J'ai pas le refrain qui en dit long. Seulement quelques mots brisés dans la coche. Je fais pas le malin sous les néons. Quand je lui mets ma folie dans la coche. Si l'alcool ferait couper aux larmes, c'est que ça va pas vraiment fort. Parfois j'ai besoin d'un sac en craft. Quand simplement respirer devient un effort. Et au bord de la faillite, je continue d'écrire des poésies. C'est Paris, Paris qui m'habite. Je continue d'écrire des poésies. Quand j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal partout. Quand j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal partout. Oh, ça va pas du tout. J'ai plus jamais le coup. Ça va pas du tout. j'irai pas jusqu'au bout. Et au bord de la faillite, je continue d'écrire des poésies. C'est Paris, Paris qui m'habite. Je continue d'écrire des poésies. Quelques années en Erasmus, la sauté jupe lycéenne. Je ne demandais pas vraiment plus qu'un dernier volcan bouillant dans les veines. Je rêvais de remplir des salles, pas de remplir des verres dans mon salon, comme un con devant l'intégrale d'une série, la main dans le pantalon. Et au bord de la faillite, je continue d'écrire des poésies. C'est Paris qui m'habite. Je continue d'écrire des poésies.
Dans les oreilles de
Chaton.
Nova.
Dans les oreilles.
Poésie ou quand les vers viennent à la rescousse d'une coupe trop pleine. Poésie, extrait de Possible, l'acte de naissance de Chaton et de renaissance pour l'auteur, compositeur et interprète Simon Rochon. Un disque sorti en 2017. Depuis, 4 albums ont vu le jour, dont Le Geste, dernière en date. D'ailleurs, est-ce que des musiques ont accompagné la réalisation de ce disque? Est-ce que tu avais dans les oreilles à ce moment-là?
C'est particulier ce dernier disque parce que je l'ai pas fait seul, contrairement aux autres albums de Chaton. Chaton, depuis le début, je faisais tout seul. Zéro feat, zéro collab, rien. Vraiment, je le faisais dans ma chambre, en fait. Chaton, c'est tout né dans ma chambre, sauf cet album-là qui est né dans ma chambre et dans celle de Max Blundetto. Moi, je savais qu'on approchait du 10e album. Je savais que je revenais sur scène, là, pour Une Cigale, en janvier, et que, depuis un certain temps, je sens que je vais bouger ailleurs, potentiellement pendant un temps. Et donc, du coup, je me dis, OK, probablement, vu mon rythme de production, qu'on sera au 10e album, au moment de La Cigale, qui est, en tout cas, si ce n'est la fin, en tout cas, après, c'est sûr que je marque une pause. Qu'est-ce que je pourrais faire pour me faire vraiment kiffer sur cet album-là, sur le 10e? Eh bien, tu sais quoi? J'ai envie de faire ce rêve de gosse, de faire l'album de reggae. Et l'album de reggae, pour moi, c'était « Hé, Simon, le jour où t'as écrit 10 chansons qui sont très bonnes, je trouve que c'est OK. » Franchement, fais un album de reggae avec. Parce que de toute façon, toutes tes chansons, c'est plus ou moins du reggae, tu le sais. Et donc, je me dis, OK, on est en juin. Juin, je suis avec Lola sur la terrasse. Je dis, bon, OK, je vais le faire. Je vais appeler le seul mec pour moi qui sait faire du reggae en France, qui s'appelle Blundetto. Un mec, je savais même pas comment il faisait sa musique. Je savais juste que sa musique, ça avait un groove, OK.
Et qu'est-ce qui vous plaisait?
Dans sa musique. Ah mais bah en fait le truc c'est que Blundetto, moi je pense que la première fois que je l'ai entendu c'est peut-être quand j'ai regardé qui avait fait Liquid Sunshine de Biga, Banks.
Hey, Liquid Sunshine, it's raining a lot. Liquid Sunshine, the water is hot. Say say say, chilling on a rainy day. Jane's gone, but the sky is gray. Ooh.
Et si je pense que c'était parce que j'écoutais les sorties et que son visuel était très stylé. C'est un mec qui a vraiment beaucoup de style, Biga. Et en fait, ensuite, plus tard, je regarde, puis je vois Blundetto, et puis j'écoute après tout ce qu'il fait lui. Et je me rends compte qu'il y a un truc qui me plaît énormément au-delà du reggae, en fait, et c'est peut-être pour ça que je me suis dit que ce serait lui le jour où j'irai chercher le reggae. C'est que, je vais te dire un truc, moi, quand j'écoute son dernier album à Blundetto qu'il a fait lui, la chanson d'introduction, je ne saurais pas dire le titre, il y a une drum dedans, pour moi, elle sonne comme les drums de Neil Young. Très loin le meilleur batteur, je trouve, local. Quand je dis local, c'est français, quoi. Il est incroyable. C'est aussi un multi-instrumentiste, mais c'est un batteur incroyable. Et en fait, j'ai compris que c'était pas juste que c'était un batteur de reggae, c'est un batteur. Il sait exactement, il a le son, il a cette culture du silence, du mat. Et d'ailleurs, c'est un mec comme ça. C'est un mec qui est très discret, qui est très calme. Voilà, moi, à côté, je suis une furie. Et donc, je l'appelle. Enfin, je lui écris, quoi. Je lui dis, écoute Max, voilà, je suis Simon, je sais pas si tu me connais, Je m'appelle, je fais Chaton depuis 5 ans. Là, ça va bientôt être le 10e album. J'ai envie de faire 10 chansons du répertoire, les remettre en reggae. Il m'appelle le lendemain. Ouais, bien sûr, je connais ton travail et tout. Vas-y, ça me branche, on fait des essais. Et là, on fait des essais. Et en fait, à mesure des essais, mais non, tu peux pas, ça marche pas sur toi. Tu devrais le savoir, t'aurais dû anticiper. Tu peux pas revisiter une chanson parce que t'es déjà ailleurs, t'es déjà dans un autre moment, t'as besoin d'écrire, t'as besoin de produire, t'as besoin de raconter ta vie à l'instant T. Parce que même si monde entier, poésie, n'importe quoi, c'est des chansons que je suis ravi de porter aujourd'hui et que je suis ravi de porter sur scène, donc je suis très fier. Mais c'est des chansons qui racontent Simon il y a 3-4 ans. Aujourd'hui, c'est différent.
Donc tu réécris tous les textes ?
Mais c'est même pire que ça. C'est genre, je vais chez Max pour la première fois dans sa campagne, il est à la campagne maintenant. Et là, on commence à discuter justement d'un morceau qu'on avait en cours et tout. Et quand ça me fait écouter aussi des instrus, puis machin. Je reprends la bagnole, je rentre chez moi. J'arrive à Paris, je dis à Lola, est-ce que tu peux t'occuper des enfants s'il te plaît ce soir, je vais écrire. Je prends des prods que j'avais récupérés chez lui, des machins, des trucs qu'on avait, des essais, des trucs. Et là, je suis parti pour 15 jours où j'ai écrit. Non-stop, voilà. J'ai appelé Max, je lui ai dit, ok, lui il partait en vacances, c'était en juillet. Je lui ai dit, écoute, tu peux retravailler, moi je te livre de quoi retravailler dans 10 jours. Je me suis enfermé encore pendant 10 jours. Et en effet, il a pris le relais pendant, enfin, juillet, etc. Ça allait très très vite. Ça s'est été super fluide. C'est l'image que je me faisais aussi de l'album de reggae. Moi, Aux Armes, tu vois, qui est un album culte de reggae. De Gainsbourg, c'est un album qui a été, la légende veut qu'il ait été enregistré en quelques jours, tu vois. Et je veux bien le croire, parce qu'en fait, je pense que c'est, tu veux que je te dise, je pense que c'était la même dynamique. Je pense que le mec, il arrive en Jamaïque en se disant, je vais faire un album de reggae, vas-y, j'ai mes chansons. Ah, j'ai des classiques dans tous les sens, je vais juste les faire jouer par Sly et Robbie, justement. Et en fait, je pense que, bah voilà, il a réécrit des trucs, il a rechanté, les machins. Et donc, voilà. Et donc la musique qui m'accompagnait, là, pendant ce temps-là, c'était pas du tout ça. Moi, j'écoute du reggae on a daily basis, tu vois. Tous les jours, j'écoute du reggae. Mais comme tous les jours, j'écoute Chopin. Comme tous les jours, j'écoute... en ce moment, j'écoute... je sais pas, j'écoute Je t'aime de ouf de Eloi 3 fois par jour. J'écoute Je t'aime de Mira. Putain, je suis très dans les Je t'aime de chansons de meuf, quoi.
Pourquoi je n'ai vu que ta peine quand tu m'as dit je t'aime, quand tu m'as dit je t'aime.
Une des chansons que j'écoute le plus, c'est ça. Après, je peux écouter Shy, Jolie de Shy, 10 fois.
Yeah, BMW a tout pété, je fais des showcases tout par an. Tout se passe comme prévu direct, dans le piano vidéo ou pas. Dire ça paye être un feat, j'aurais perdu la moitié. Les alliés s'en ont allé, les cousins débarquent à tout va.
Après, je peux écouter Sound of Silence 10 fois. Et après, je peux écouter... remettre Beethoven et puis repartir sur James Blake et puis je sais pas, il y a pas vraiment de, j'ai écouté Perfect de Ed Sheeran 2000 fois cette année et j'ai écouté Love Yourself de Justin Bieber 8000 fois en 3 ans.
Comment t'aimes écouter la musique ? Dans quelles conditions ?
Bon, en fait, j'ai mon bureau de travail, c'est aussi mon, comment dire, j'ai des écoutes, tu vois. Des écoutes pour travailler, mais c'est aussi mes écoutes qui sont connectées à ma musique, en fait. Donc j'écoute en même temps que je travaille, après que je travaille. C'est dans le salon, en fait. Moi, je travaille dans mon salon, tu sais. Je le dis ouvertement. Donc en fait, il y a la musique. Enfin, mon poste de travail, c'est aussi le moment où il y a... Quand c'est pas moi qui crée de la musique, ben, il y en a qui tournent, en fait. Il y a tout le temps de la musique. J'ai un peu une playlist permanente. Tu sais, je suis aussi producteur et éditeur. Moi, c'est aussi mon métier. J'ai un label et tout. Et puis, j'ai été dans l'industrie de la musique, malgré tout, pendant des années et des années. Et du coup, j'ai aussi le réflexe d'écouter tout ce qui se fait. Cette année, j'ai écouté toutes les, enfin, j'ai maximum de sorties. Le vendredi, j'écoute et voilà. Mais
est-ce qu'il y a des artistes qui vous ont surpris justement ?
J'ai eu très peur post-Covid, juste après le Covid. Pendant le Covid, évidemment, j'ai eu très peur, mais moi, je l'ai vécu. Je sais ce que c'est d'avoir été auteur et compositeur pendant le Covid et le juste après, ça n'a pas été super jojo en fait, parce que les gens n'étaient pas encore ressortis, ils n'avaient pas encore vécu à nouveau. Et du coup, tout ce qui est sorti juste après, moi, j'ai eu un peu peur qu'on ne se renouvelle pas. Et puis, en fait, sont arrivés des nouveaux artistes et ils ont des trucs à dire, que ce soit dans la scène rap évidemment qui est omniprésente. Donc voilà, évidemment, t'as des artistes de rap géniaux, des Epps, des gens comme ça qui arrivent sur le...
J'ai arrêté de me plaindre, j'ai décidé de faire. Maintenant, tu peux me craindre, j'ai des idées de faire. Qu'est-ce que tu veux de plus? J'ai rappé mes darons, ma life, mes shoes et mes parents, négro, mes coups et mes darons. Cause I'm young and I'm black
and my hands real low. Mais t'as aussi des artistes de pop et il y en a plein, quoi. Franchement, je veux dire, moi je trouve ça très cool. Mais pour résumer le truc, c'est que je peux écouter n'importe quelle musique, n'importe quel type de musique. Tu vois, j'ai mis un petit mot au petit gars qui fait ce morceau qui tourne actuellement chez vous, la Moscow Mule, un truc de Spelandéol.
Elle veut boire un verre, un Moscow Mule. Elle sait que je suis pas le plus bête, elle sait que je suis pas le plus cool. Je l'ai dans ma tête, dans mes maquettes, mais j'ai la flemme, moi j'aime la foudre.
Bah, typiquement, voilà, c'est le cas d'une bonne chanson. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui se passe quand il y a une bonne chanson qui est un peu honnête et ça fait plaisir. Voilà, c'est tout.
Tu l'entends ?
La réalité, c'est que je me bats avec moi-même pour pas devenir DA parce que j'estime que j'espère avoir un peu plus à dire, ou en tout cas, j'ai un combat un peu plus intéressant à mener en torturant ma plume. Et Dieu sait que c'est compliqué et Dieu sait que ça demande beaucoup d'efforts et d'abnégation, mais en vrai, je devrais depuis longtemps faire plutôt des A et essayer de justement aider les gens à écrire des bonnes chansons. Ça viendra peut-être après, quand j'aurai vraiment abandonné l'idée que je puisse écrire la chanson ultime.
Depuis le bord de la folie, je contemple la neige, mon inverse, neige éternelle, je veux tout ce qui reste. Neige blanc comme hier, j'aime son allégorie. Ma conscience titube, ma conscience trébuche. Les massifs tuent les artifices, ici renaissent mes inquiétudes. T'es la personne que je hais le plus, quel privilège. Réalité mon ennemi, j'attends qu'arrive les choses qui restent. C'est tous les jours la fin d'un film, joue des névroses contre l'ennui. À l'horizon quelques démons.
Il y a une fille qui s'appelle Humbeauté, ma chérie. Je pense que c'est le full blaze, mais je sais pas trop exactement comment elle se fait appeler. C'est Humbeauté ou Humbeauté, ma chérie. Elle a fait une chanson qui s'appelle Montagne Triste, je pense. Cette chanson, ça doit être un truc, ça, enfin, tu vois, c'est genre vraiment passé sous le radar. Et en fait, je pense que ça a été une des meilleures chansons qui a été écrite en français, enfin, en local. Ouais, c'était en 2019, je crois. Moi, cette chanson, encore aujourd'hui, je peux me l'écouter et trouver que c'est une excellente chanson, même si. Personne n'a dit que c'était une excellente chanson. Et je pense que si elle avait été travaillée, si elle avait été écoutée... Et d'ailleurs, le truc, c'est que moi, je crois en le catalogue. Où en fait, il y a un magasin de musique éternel et interminable qui s'appelle Plateforme de musique, on va pas en citer. En fait, cette chanson, elle finira par exister à un moment ou à un autre, forcément, je pense.
Nova.
Dans les oreilles de...
Chaton. Quel est le dernier morceau que t'as écouté avant de venir?
Tu me juges si je te dis que c'est moi que j'ai écouté?
Ben non.
Ça va. Mais j'ai écouté Le Geste, en fait, parce que au final... C'est une autre écoute, les premières fois où tu l'écoutes, une fois qu'il est dehors. Et je reçois plein de messages maintenant parce qu'il est sorti et je vais me l'écouter. Voilà. Et du coup, je l'ai écouté, et après je l'ai écouté dans le taxi et j'étais arrivé à peu près à la 10e chanson.
Je serai à jamais amoureuse de la prochaine fille qui me veut. Un homme, c'est stupide à ce point. C'est bien le pire des êtres humains. Je suis dans une pièce de Marivaux, un vaudeville qui vaut ce qu'elle vaut. Je n'ai qu'un seul pouvoir, c'est les mots. Je mets dans un ordre qu'il faut. Au fond de mon effroi, je m'ennuie le reste du temps.
Et dernière question, c'est quoi la musique pour toi? Qu'est-ce que ça représente?
Bah, tu sais ce que dit Nietzsche. Sans musique, la vie ne sert à rien, tout simplement. C'est tout, la musique. T'imagines un monde sans musique? T'imagines comme c'est triste? Et moi, c'est ma grande hantise. J'ai des acouphènes depuis que j'ai 17 ans, ok? Donc moi, j'entends jamais le silence. Je pense que c'est pour ça. Je pense que c'est ma tête qui m'a fait des acouphènes pour que j'entende jamais le silence. J'ai trop peur du vide, j'ai trop peur du silence, j'ai trop peur de la finitude. Bien sûr, comme tout le monde. Non?
fin de cette virée dans les oreilles de Chaton qui partageait avec nous les temps forts musicaux de sa vie et son appétit toujours intact pour les notes et les mots qui racontent l'intemporel et l'air du temps. Merci à lui d'avoir partagé la vibration et merci à Tristan Guérin pour la réalisation de cette émission qui, je vous le rappelle, est dès à présent disponible en podcast en version augmentée sur toutes les plateformes à écouter et réécouter en attendant le concert de Chaton qui aura lieu, lui, le 27 janvier prochain à La Cigale à Paris. Quant à moi, vous le savez, je vous retrouve dans quelques minutes côté Grand Mix de Radio Nova.
Nova.
Dans les oreilles de...
En fait, la musique, elle est essentielle pour une chose, c'est mettre dans un état émotionnel.
Dans les oreilles.
La musique, c'est des sons organisés, c'est des respirations.
La musique, c'est le lien entre le matériel et l'immatériel.
Nova.
Retrouvez Dans les oreilles de et sa playlist sur nova.fr.